franceinter.com. Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Vos questions, vos réactions sur franceinter.com.
Bonsoir. Un conflit d'intérêts, convenons-en, notion parfois peut-être un peu vague dans l'esprit du public, apparaît lorsqu'une personne dotée d'un certain pouvoir, alors ça peut être un fonctionnaire, un élu, un scientifique, un médecin, un décideur, peut trouver un intérêt personnel dans une mission ou un arbitrage qui lui est confié ou dont les intérêts peuvent influer sur la décision qu'elle est amenée à prendre ou l'avis qu'elle doit donner. En l'occurrence, puisque c'est notre sujet de ce soir, au téléphone sonne, on pense aux médecins ou aux chercheurs amenés à évaluer, par exemple, les effets d'un médicament mis à l'essai. Toute la difficulté étant que ce sont évidemment des spécialistes reconnus et réputés dans leur discipline auxquels les laboratoires et les industriels de la pharmacie donnent leur préférence. Bref, des professionnels qui font autorité, certes, mais peuvent ensuite précisément être confrontés au dit conflit d'intérêts, intérêts au pluriel. On l'a vu évidemment, et on en a parlé ici même, chez Servier avec le Mediator, longtemps prescrit en France alors que déjà dans des pays voisins comme la Suisse ou l'Espagne, il avait suffi d'une suspicion pour qu'il soit interdit. On pense aussi au Distilben, une hormone de synthèse prescrite en France pendant 30 années aux femmes enceintes pour prévenir les fausses couches, 200 000 femmes au total et des conséquences sur trois générations, maintenant encore d'ailleurs. Et puis tout récemment, la Haute Autorité de Santé a été mise en demeure par le Conseil d'État d'abroger une de ses recommandations sur un traitement du diabète de type 2 à cause du non-respect des règles de gestion des conflits d'intérêts, précisément par les experts qui avaient participé à l'élaboration du médicament. Un sujet, il faut aussi le dire, qui est d'autant plus sensible que, rappelons-le, il faut se méfier de ceux qui voudraient jeter le bébé avec l'eau du bain. Rappelons que la chimie, la recherche, les nouvelles molécules, les nouveaux médicaments, on en parle souvent ici, demeurent essentiels pour nous protéger tous et dans la lutte contre les maladies, y compris les maladies les plus graves comme le cancer, le sida ou les maladies neurodégénératives. Je referme cette parenthèse, mais il était, me semble-t-il, nécessaire de l'ouvrir. En direct ce soir avec nous, le professeur Jean-Luc Arousseau, président de la Haute Autorité de Santé. À ses côtés, le docteur Philippe Foucras, médecin généraliste, président du FORMINDEP, association pour une formation et une information médicale indépendante. Christian Lajoux, président du LEM, les entreprises du médicament, industrie pharmaceutique. Et je n'oublie pas évidemment Daniel Messager de France Inter.
Le téléphone sonne.
Clotilde à Nancy, bonsoir. Un courriel dans lequel vous indiquez que vous êtes pharmacien hospitalier, oui, du privé, bonsoir. Et marié, bonsoir, à un médecin du public qui a votre opinion. Alors votre opinion, eh bien, on l'écoute. Bienvenue d'abord sur France Inter, Clotilde.
Oui, bonsoir. Bonsoir. J'avais déjà un commentaire et puis ensuite une question.
Allez-y.
Quand même pour vos invités.
Allez-y.
Premier commentaire, c'était l'idée, c'est quand même pour éviter les conflits d'intérêts, je pense que c'est de remettre une certaine intégrité morale au cœur de nos métiers de soignants, hein. Ça, c'est bon, c'est un peu du. Ça peut passer d'une part par la formation initiale, à savoir que les facultés devraient être indépendantes de l'industrie. Hein. Actuellement, l'industrie est présente dès les premières années d'études des soignants. Et puis, deuxième idée, c'est qu'au niveau des soignants déjà en exercice, leur rappeler quand même, hein, et monsieur le représentant du FORMINDEP pourra le préciser,
oui,
que les financements de l'industrie qui va vers les soignants est souvent issu de l'argent du contribuable, si on fait un calcul rapide.
Hein. Oui.
Alors ma question, c'était aussi pourquoi, lorsque notamment vous invitez des médecins ou des professionnels de santé, vous-même en émission, vous ne communiquez pas forcément en début d'émission les éventuels conflits d'intérêts.
Bah, on pourrait le faire, à supposer que vous en avez... Bah non, Christian Lajoux,
moi, j'en ai un
on vous a présenté avec votre casquette. Daniel Messager, vous en avez
Non,
journaliste médical.
Non.
Vous-même, docteur Fougras
Donc, effectivement, c'est une très bonne remarque. Moi, donc, conformément à la loi, en tant que médecin, je déclare de ne pas avoir de lien d'intérêt avec des entreprises fabriquant ou commercialisant des produits de santé.
Et Alain Bédouet, vous-même
Moi, non, pas à ma connaissance, en tout cas, et je suis généralement bien informé sur ce qui me concerne tout état de cause. Et vous, plus sérieusement, professeur Arousseau.
Avant de prendre la présidence de la Haute Autorité de Santé, je faisais partie de ces experts. J'étais un expert, je pense, de niveau mondial dans les maladies cancéreuses de la moelle osseuse et en particulier du myélome, qui est une maladie très dévastatrice et de pronostic très grave. Et donc, j'ai participé au développement d'un certain nombre de molécules et j'ai eu un certain nombre de liens d'intérêt avec des industries pharmaceutiques. Alors, j'ai publié intégralement tout ce qui m'a été versé à titre personnel ou pour les associations et les services hospitaliers avec lesquels je travaille pendant les trois dernières années qui ont précédé ma prise de fonction. Et depuis que je suis président de la Haute Autorité de Santé, je n'ai bien sûr plus aucun conflit d'intérêts.
Daniel Messager.
Il y a eu quand même un petit problème quand vous êtes arrivé, c'est-à-dire que vous n'avez pas déclaré tout de suite. Il a fallu que la presse s'en empare un peu pour vous déclarer un mois après votre prise de fonction. Ça s'est pas fait tout à fait spontanément quand même.
Je m'étais engagé, quand je suis passé devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat, à publier intégralement, chiffres précis, toutes mes activités et tous mes liens d'intérêt. Je l'ai fait. Alors simplement, c'est vrai que j'ai été un peu pris par le temps. Ma nomination a été assez rapide, fin décembre. Et autant pour ce que j'avais comme intérêt personnel, c'était facile à faire, puisque c'est bien sûr déclaré, autant ce que j'ai contribué à obtenir pour mon équipe de recherche à Nantes, pour le groupe coopérateur que je préside, a été plus long. Et donc, j'ai mis effectivement 15 jours avant de publier cette revue intégrale. Mais je tiens à dire quand même que j'ai été le premier à avoir la franchise et la transparence de publier intégralement tous les chiffres.
Réaction aux propos liminaires de Clotilde, Christian Lajoux.
Je voudrais dire qu'un lien d'intérêt n'est pas un conflit d'intérêt. Un lien d'intérêt devient un conflit d'intérêt dès l'instant où il est caché et dès l'instant où la personne qui a coopéré pour une entreprise pharmaceutique se retrouve dans la situation d'évaluer, par exemple, le médicament de cette entreprise ou un médicament concurrent. C'est une différence énorme. Je le reprends parce que, d'entrée de jeu, vous avez dit que vous avez un conflit d'intérêt. Non, moi, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je suis salarié d'une entreprise. Je travaille pour cette entreprise. C'est un lien d'intérêt. C'est extrêmement transparent et tout le monde le sait.
Juste pour dire qu'il était,
Arousseau, oui.
Il est évidemment indispensable que dans ma position, à la tête d'une haute autorité de santé qui est une institution indépendante, je n'ai plus aucun lien d'intérêt, évidemment, de quelle sorte que ce soit.
Mais que ce soit bien clair dès le départ, donc vous aviez évoqué ce que vous aviez effectivement avant d'être à la tête de la haute autorité de santé, vous avez parlé de revenus personnels. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on entend par là
Ce sont des honoraires qui sont donnés en échange d'un travail qui est généralement un travail d'expertise ou un travail de formation continue.
Il faut rappeler au passage, pour être complet, parce que j'ai beaucoup de questions d'internautes, on va en entendre là-dessus, Daniel, que tout dépend aussi du sujet et le lien d'intérêt, il est corrélé, inhérent, ici même à la radio, à la façon dont on traite un sujet. Je veux dire que si on veut parler de l'alimentation, on va plutôt, et vous allez plutôt inviter des nutritionnistes et des diabétologues, mais pas tellement des ophtalmos. Et lorsqu'on va faire un sujet sur la cardiologie, on le prendra. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais je n'aurai pas pour autant de conflits d'intérêts parce que je ne suis pas rétribuée.
Et les invités, espérons-le, n'auront pas de conflits d'intérêts lorsqu'ils répondront à des questions posées par des auditeurs ou des auditrices. Je vous lis quelques courriels dans cet état d'esprit, mais c'est au cœur du sujet. Pierre, dans les Ardennes, on met en cause des experts trop liés peut-être à l'industrie pharmaceutique, mais comment faire autrement? Où les trouver sinon dans leur spécialité? Et il ajoute, je dirige une petite boîte de tissus synthétiques, je vais chercher des ingénieurs chimistes très pointus dans ces matériaux, pas des philosophes ou des artistes peintres, malgré tout le respect que j'ai pour eux, ça doit être la même chose pour les profs de médecine. Un autre courriel, Samy à Poitiers, si le médecin qui me prescrit un antidépresseur à l'hôpital est le même que celui qui a participé à la mise au point du médicament ou simplement consulté pour donner le feu vert à la mise sur le marché et a donc été payé en conséquence, ça jette forcément une ombre ou un trouble sur ce système, mais en même temps, Je me doute bien que c'est à lui, psychiatre, qu'on va demander son avis et pas à son collègue chirurgien ou rhumato du même hôpital. Bref, il ne doit pas être facile d'écarter a priori les spécialistes reconnus. C'est la question que je me pose à propos des liens ou des conflits d'intérêts. Commentaire peut-être, docteur Fougras ?
Oui, alors la question des conflits d'intérêts en médecine est étudiée quand même depuis la fin des années 80, début des années 90 dans la littérature médicale internationale. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des articles, des publications sur cette problématique-là, ouais. Avec des définitions qui sont maintenant précises. Hein. Donc un conflit d'intérêts, c'est quand l'intérêt primaire d'un professionnel, donc quand c'est un médecin, l'intérêt primaire c'est l'intérêt du patient, risque d'être biaisé ou d'être modifié par un intérêt secondaire. Et donc et c'est ça qui est très important. Je crois qu'il faut vraiment percevoir dans cette pour éviter de tout mettre dans un espèce d'amalgame comme ça, c'est la question des influences qui se jouent. Donc c'est quand un intérêt secondaire se met à influencer, oui, l'intérêt primaire. Donc que ça soit au niveau de la recherche, que ça soit au niveau de l'information avec la HAS, que ça soit au niveau de la prescription. Donc on voit bien qu'il y a toutes sortes d'influences qui peuvent se jouer. Et donc c'est à partir de là qu'on parle de conflit d'intérêts. Mais la problématique importante, c'est l'influence.
Christian Lajoux du LEM et ensuite le professeur Arousseau et Daniel Messager. Monsieur, oui, Lajoux.
Dans, oui, la continuité de ce que disait l'auditeur des, oui, Ardennes, oui, je crois qu'il faut avoir à l'esprit que pour développer un médicament, il faut entre 8 et 12 ans. Il y a différentes phases de développement, de la recherche fondamentale à la recherche expérimentale. Il faut faire des essais cliniques sur des patients. Et il y a donc nécessité, obligation, et votre auditeur le disait fort bien, il y a obligation pour l'industrie du médicament de travailler avec les spécialistes en question, avec ceux qui ont la faculté de prescrire les médicaments chez les malades et de les observer. Et si on voulait d'une façon ou d'une autre contester la nécessité de ce lien, il est complètement évident qu'on priverait le pays définitivement de l'accès à l'expérimentation des nouveaux médicaments et que l'on priverait la communauté scientifique et la communauté médicale d'une connaissance qui est toujours évolutive, parce que la connaissance scientifique dans le domaine des sciences du vivant évolue en permanence. Et je pense qu'il est extrêmement important de garder à l'esprit la nécessité de cette coopération pour une seule finalité qui est finalement le mieux-être des patients. Parce que vous l'avez dit, le médicament, ça sert à sauver des vies.
Professeur Arousseau.
Oui, nous avons beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et qui sont sans doute un petit peu inquiets quand ils entendent que les experts qui jugent les médicaments sont éventuellement à la solde de l'industrie pharmaceutique. Donc moi, je voudrais, pour les rassurer, dire que nous n'avons pas attendu le drame du médiateur à la Haute Autorité de Santé pour mettre en place des règles extrêmement strictes pour prévenir les conflits d'intérêts. Et la règle fondamentale, c'est la déclaration publique d'intérêt. Il faut que tous nos experts remplissent une déclaration publique d'intérêt qui explique quels sont leurs liens avec l'industrie pharmaceutique. C'est mis sur le site de la Haute Autorité de Santé. Et si un expert a un conflit majeur, il ne doit pas participer aux décisions qui sont prises par notre institution, qui, je le rappelle, joue un rôle dans la santé et la sécurité des patients.
Alors là-dessus, vous me tendez une perche. Antoine doit intervenir aux Antilles, qu'il nous laisse une petite minute, parce que je voudrais vous lire, et puis je demanderai votre point de vue, puis aussi peut-être celui de votre voisin, le docteur Fougras. C'est un peu ce que nous écrit Romain à Fréjus. Il écrit « La solution ne serait-elle pas de rendre complètement étanche, lui il utilise ce mot, étanche, les phases de la recherche, puis des essais cliniques et enfin du débat sur l'autorisation de mise sur le marché et ensuite du contrôle des médicaments. Pour moi, l'étanchéité, ça signifierait que ce sont des professionnels différents qui interviendraient dans chacune de ces phases. Est-ce que ça correspond aux règles strictes dont vous parliez à l'instant, M. Arousseau ? Et puis, on va demander au docteur Fougras ce qu'il en pense.
À un moment, dans l'évaluation d'un médicament, oui, pour une spécialité, en particulier pour certaines spécialités pointues, on a bien besoin d'experts. Et ces experts, ils ont bien participé assez souvent au développement du médicament. Le rêve serait d'avoir des experts à la fois compétents, mais n'ayant aucun lien d'intérêt, ce qui est bien difficile. Alors, j'ai entendu que le professeur Even avait trouvé une liste de 500 de ses experts. S'il l'a vraiment, j'aimerais qu'il me la donne, parce qu'en fait, en pratique, c'est très difficile de trouver des experts réellement compétents et qui n'ont pas de conflit. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on a des groupes de travail qui essayent de balancer les experts et les médecins généralistes et même les patients qui aident à l'établissement de nos recommandations.
Docteur Fougras ?
Oui, alors ce n'est pas un péché de travailler pour l'industrie pharmaceutique. Le problème, c'est que quand on a travaillé beaucoup pour l'industrie pharmaceutique, qu'on a apporté toute sa compétence, qu'on a développé des produits, eh bien, on finit par avoir un regard qui est influencé normalement par ce travail-là. Et c'est le problème de devenir juge et parti. Hein. Mmh. C'est ça la difficulté. La difficulté, c'est que les influences, quand on a fait carrière grâce à l'industrie et avec l'industrie, il y a tout un bagage qui fait qu'on est naturellement influencé. Et donc cette influence-là, maintenant, on le sait, c'est écrit, c'est démontré, on a des exemples malheureusement avec le médiateur et d'autres, cette influence-là est susceptible de créer un risque sanitaire. Donc c'est ça la problématique, c'est de se protéger, de protéger les citoyens de ce risque sanitaire que sont devenues les influences qui sont liées à ça. Il ne s'agit pas d'empêcher quiconque que ce soit. Alors il y a toujours ce discours récurrent en disant il n'y a que les experts qui ont travaillé pour les firmes qui sont compétents. Non, là encore une fois, il faut sortir de cette vision unique. On a sous les yeux, donc il y a la liste du professeur Even, il y a des articles qui ont été parus dans le British Medical Journal qui fournit des listes d'experts indépendants. Et puis enfin, en France, on a la revue Prescrire, qui ne sont pas des experts qui ont travaillé pour les firmes, mais qui justement, parce qu'ils ont su, par leur formation, s'affranchir de ces liens d'intérêt, sont capables de donner des avis sanitaires et de santé publique plus pertinents que les experts sous influence.
Antoine, vous êtes à Saint-Martin, aux Antilles. Je vous dis donc plutôt bonjour, c'est le début de l'après-midi. On vous écoute attentivement. Bonsoir Antoine, bonjour.
Bonsoir à vos auditeurs, vos intervenants. En fait, la question que je me pose ne relève pas strictement de la problématique médicale, mais plus généralement du conflit d'intérêts dans toutes ces exceptions, que ce soit politique, etc. Est-ce que l'appellation n'est pas trompeuse de conflit d'intérêts? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un conflit d'intérêts finalement? Ça serait penser que, mettons, la partie publique aurait un intérêt, la partie privée, telle ou telle, aurait un intérêt divergent. Alors que finalement, le problème résulte plutôt du fait que il y aurait une communauté d'intérêts dans la mesure où on dirait, finalement, nos intérêts sont les mêmes.
L'un des intervenants, vous l'avez peut-être entendu, parler des liens d'intérêts sur la terminologie. Qu'en pensez-vous les uns et les autres ici sur la joue?
Oui, le lien d'intérêt d'une coopération entre l'industrie et les professionnels de la santé, c'est le mieux-être des patients. C'est la possibilité de guérir des malades aujourd'hui. Rapidement, je reviens sur la question également précédente, mais en continuité. Il n'y a pas un seul regard qui se porte à un moment donné concernant l'expertise d'un médicament. Il faudrait que les auditeurs comprennent que c'est un avis collégial, c'est l'avis de multiples personnes qui définissent in fine l'évaluation d'un médicament. Donc par rapport à l'étanchéité qui était évoquée précédemment, à défaut d'exister réellement peut-être comme l'auditeur l'aurait voulu, il y a aujourd'hui déjà des cloisonnements dans l'ensemble du processus d'évaluation. Et c'est l'expertise elle-même qui doit être totalement indépendante. Et cette expertise, elle est l'élaboration, le fruit du travail de multiples intervenants.
Daniel Messager.
Monsieur Rousseau, vous avez dit qu'à la Haute Autorité de Santé, il y avait maintenant des règles strictes. Ça veut dire qu'on ne risque plus d'avoir ce qui s'est passé avec le Conseil d'État concernant les recommandations sur la prise en charge du diabète de type 2 qui ont été abrogées parce que le Conseil d'État estimait justement qu'il y avait conflit d'intérêts. On évoque ça aussi pour la prise en charge de la maladie d'Alzheimer, peut-être à venir bientôt. Ces règles sont aussi strictes que ça? Alors, il n'y a vraiment plus de personnes qui n'aient de conflit d'intérêts, qui président des commissions concernant un traitement particulier?
Je vous remercie de poser la question parce que c'est effectivement important. J'ai dit tout à l'heure que la Haute Autorité de Santé avait une particularité, c'est qu'elle est une institution scientifique, mais indépendante de toute pression. Donc pour nous, la question des liens d'intérêts et des conflits d'intérêts est une question capitale. Elle a été traitée depuis la création de la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire en 2004, son installation en 2005. Alors, je vous fais remarquer que la recommandation du diabète date de 2003 et que l'installation du groupe de travail a donc été faite avant la mise en place de la Haute Autorité de Santé. Dès sa création, la Haute Autorité de Santé a réfléchi à cette question et s'est progressivement améliorée avec le temps. Elle a mis en place un groupe de déontologie déontologie et de prévention des conflits d'intérêts. Elle a édité une charte, elle a édité un guide en 2007 qui a été actualisé en 2010 avec des règles plus strictes, notamment pour évincer tous les experts qui ont des conflits d'intérêts majeurs. Donc effectivement, on a fait des progrès. Alors ça
n'a
pas été suffisant parce que, à notre surprise, le Conseil d'État a accédé à la demande de Formindep et a rejeté notre première recommandation sur un motif très précis, il faut bien le dire, qui était l'absence de 4 déclarations publiques d'intérêt sur 27 et pas sur le fond du dossier. Alors nous avons tiré la leçon. Nous avons été surpris, mais nous avons tiré la leçon. Il y a un message du Conseil d'État qui est très clair, qui est il y a eu un avant-médiateur et un après-médiateur. Dans l'après-médiateur, on ne peut plus se permettre d'avoir des approximations. Et en conséquence, pour la deuxième recommandation du Formindep, deuxième plainte auprès du Conseil d'État.
Sur la maladie d'Alzheimer.
Sur la maladie d'Alzheimer, nous avons pris la décision de retirer la recommandation. De la retirer parce que nous considérons qu'il faut, d'une part, redonner la confiance aux Français et, d'autre part, bien que montrer que la HAS est une autorité indépendante et qu'elle doit montrer l'exemple.
La haute autorité de santé.
Absolument.
François à Paris, bonsoir, et ensuite une intervention du docteur Foucras. François, vous êtes là ?
Je pense. Est-ce que c'est de moi dont il s'agit ?
Oui, si c'est bien vous, François à Paris, bienvenue d'abord, bonsoir.
Oui, alors je suis donc le docteur Rousselot, le responsable du service relations médecins-industrie au niveau du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Oui.
Je voudrais préciser tout de suite que l'Ordre étant responsable de la déontologie, prescrit dans son article 5 qu'un médecin n'a pas le droit d'aliéner son indépendance. Cela veut donc dire qu'il ne peut pas se trouver lié par des intérêts, par exemple, matériels ou financiers, avec un industriel qui produit un médicament.
Oui.
Dans ce cadre-là, le médecin est tenu de communiquer au niveau de l'ordre tous les contrats qu'il établit avec les industriels. Il se trouve donc au niveau du Conseil national de l'Ordre des médecins, il y a une structure qui est chargée de l'analyse de tous ces contrats afin de vérifier qu'elles sont compatibles avec la déontologie.
Mais alors pourquoi n'est-ce pas plus transparent et pourquoi est-ce que l'information ne remonte pas au-delà des instances du Conseil de l'Ordre, docteur ?
Alors parce qu'il y a des dispositions qui ne relèvent pas de celles de l'Ordre. L'Ordre a une mission qui est définie par une loi. Mm-hmm. C'est l'article L41-6. Bon, cette loi, on doit l'appliquer dans sa totalité et nous sommes depuis plusieurs années très demandeurs d'une décision de transparence, d'un acte de transparence. Aux États-Unis, c'est le Sunshine Act. On voudrait qu'en France, il y ait le même type de disposition législative qui modifie les dispositions et qui permette de communiquer sur ces contrats.
Bah, merci pour ce coup de fil. On va demander aux intervenants ce qu'ils en pensent. D'abord vous, docteur Philippe Foucras, peut-être.
Oui, je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit monsieur Arousseau. Il parle de règles strictes.
Oui, vous ne voulez pas répondre quand même d'abord dans la logique et puis après, vous aurez la parole. Mais à votre confrère, non
mais sur le Sunshine
monsieur
Act,
Lajoux,
moi
alors
je pense que c'est un point extrêmement important. Et nous, les industriels, nous demandons une transposition du Sunshine Act dans la législation française, selon des modalités françaises. Je pense que c'est un point important.
Alors clairement, c'est la déclaration de tout ce qui peut être perçu, mais il y a un barème aux États-Unis.
Alors il y a effectivement un barème, il y a différentes modalités. Au sein de l'organisation professionnelle que je représente, nous avons apporté une contribution, y compris au sein des assises du médicament, pour souligner la nécessité de déclarer tous les liens d'intérêt entre les professionnels de santé et les industriels, et de faire une publicité, une publication. Il y a deux choses différentes, voyez-vous. Il y a la déclaration, ce qui se passe avec le CNOM, enfin, ce qui vient d'être souligné par l'Ordre des médecins. Il y a la déclaration et après, il y a la publicité qui doit être faite. La Haute Autorité de Santé a pour obligation de faire la publicité des liens d'intérêt, comme la SAPS a besoin de le faire. Mais on peut, ça signale que d'abord, il n'y a pas de vide juridique, il n'y a pas de vide réglementaire, il y a une réglementation qui existe. On peut aller plus loin et pour répondre à l'auditeur, on peut effectivement avancer dans le sens du Sunshine Act.
Alors maintenant, le commentaire du docteur Foucras sur ce que disait précédemment le professeur Arousseau, docteur Foucras.
Oui, alors, donc, M. Arousseau parlait de règles strictes qui étaient appliquées. Alors, qu'il y ait des efforts qui sont faits maintenant, c'est indiscutable. Et ils ont été que ces règles ont été renforcées dans les textes, c'est indiscutable. C'est en particulier grâce à l'action du Formadep. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prédécesseur de M. Arousseau qui l'a dit, le professeur de Gauss, que c'est grâce au Formadep que nous améliorons. Il l'a dit devant le Sénat. Mais franchement, elles ne sont pas appliquées, ces règles. Elles continuent à ne pas être appliquées. Nous continuons à travailler et à observer. La recommandation sur la polyarthrite de 2007. Le président du groupe de travail, je ne vais pas dire son nom, n'a même pas fait de déclaration d'intérêt qui sont publiées actuellement. Donc cette recommandation pourrait être attaquée de la même façon et supprimée. Le dossier sur les statines et sur donc les médicaments anticholestérolémiants et donc ceux qui ont travaillé là-dessus sont perclus de liens d'intérêt, n'auraient pas dû être faits. Il y a eu un article qui était publié le 14 mai sur le site de l'HAS sur cette question-là, signé par un professeur qui a participé à ce groupe de travail, qui n'a même pas de déclaration de groupe de déclaration d'intérêt sur le site de l'HAS. Franchement, la différence qui entre les discours et la réalité, c'est ça qui importe pour nous. On est encore une fois devant la gestion d'un facteur de risque sanitaire. On sait très bien avec les accidents de la route que la vitesse augmente le risque d'accident. Eh bien, le facteur, le conflit d'intérêt augmente le risque de problèmes sanitaires. Et c'est donc, pour finir avec le Sunshine Act, c'est ce qui permet de voir les risques. Mais ça ne permet pas de les éliminer, ça ne permet pas de les réduire.
D'accord. Vous vouliez dire un mot, M. Arousseau, avant le prochain appel?
Oui. M. Foucras, je vous remercie de votre engagement. Et je crois que dans des crises comme celle que nous avons vécue avec le médiateur, on a besoin de tous. Il faut que tous les acteurs du système de santé participent aux efforts. Et il y a actuellement une réflexion en cours avec différentes missions parlementaires, avec les assises du médicament. Je pense que ça va aboutir à une amélioration considérable. Et pour répondre à votre point sur la Haute Autorité de Santé que je préside depuis 3 mois, je puis vous dire que je suis conscient des suspicions que vous avez sur d'autres recommandations entre 2005 et 2010. Et j'ai donc décidé que nous reprendrions toutes les recommandations depuis 2005 et 2010. Toutes celles qui ont un doute, nous les soumettrons à notre groupe de déontologie. Et si le risque est confirmé, si le doute est confirmé, et encore une fois, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de suspicion sur la Haute Autorité de Santé, nous retirons la recommandation. Ceci étant, concernant l'Alzheimer, M. Foucras, je voudrais vous dire que si vous aviez demandé le retrait de la seule partie qui fait problème, c'est-à-dire la partie traitement, 2 pages sur 25, j'aurais compris. Là, vous nous obligez à retirer l'ensemble de la recommandation. 2 ans et demi de travail avec des spécialistes de tous bords, avec des usagers qui ont participé, alors que nous avons besoin de ces informations sur le diagnostic, sur le suivi des patients. Voilà, je pense que ça aurait été mieux de demander un retrait simplement partiel.
Non, c'est le fond des recommandations qui n'a pas été...
C'est la forme qui a pas été Pierre Apeyron dans l'Ain, si vous êtes toujours là, vous êtes courageux, merci. Bonsoir.
Oui, merci, bonsoir messieurs, dames.
On vous écoute.
Voilà, je voulais parler rapidement de l'épisode de la grippe A. On avait fini par savoir, grâce notamment à la presse, que parmi les experts à l'OMS et en France, qui avaient fait déclencher le plan monumental là, sur la grippe A, les vaccins, les remboursements de consultations, tout le matériel, il y avait des gens qui avaient eu des liens très étroits avec les labos qui fabriquaient ces vaccins. Alors moi je me demandais, comment est-ce que ces gens-là qui ont donné ces préconisations et qui étaient liés avec les labos, comment est-ce qu'ils ont osé faire ça? Après, comment est-ce que l'État, il accepte de faire porter cette dépense à toute la collectivité? Et pourquoi est-ce qu'il n'exige pas des remboursements? Je crois qu'au lieu de ça, les labos ont même exigé que tous les vaccins commandés soient réglés. Moi, j'ai vraiment l'impression que tout le monde s'en lavait un petit peu les mains, et si c'est le cas...
Si on peut le dire, oui.
À titre anecdotique, vu que je suis directeur d'école, je peux vous dire que j'ai dans mon école, j'ai encore un stock de 12 bidons de 1 litre de gel hydroalcoolique dans mes placards, je peux le fournir.
Merci. Alors, si vous le permettez, on va vous répondre, mais comme j'ai beaucoup de questions là-dessus, je voudrais citer aussi Jean-François à Paris, qui, lui, dans la même logique, parle aussi des conflits d'intérêts, toujours à propos de la grippe et du vaccin, avec certains experts de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Ça fait un tout, mais il y avait eu aussi une polémique à ce propos. Christian Lajoux, peut-être?
Oui, je pense que le sujet est extrêmement intéressant, et l'exemple est intéressant, puisqu'il y a eu beaucoup d'émotions sur ce que l'on appelait les liens d'intérêt entre l'industrie, les experts... l'OMS au moment d'une vague médiatique extrêmement importante. Entre-temps, il y a eu des missions parlementaires. Il y a eu deux missions parlementaires, une mission du Sénat et une mission du Parlement, qui ont rendu l'une et l'autre leurs conclusions. Et dans les conclusions, il apparaît très clairement que ce qui était évoqué comme des conflits d'intérêts majeurs n'en était pas. Et ces missions ont au moins le mérite, dans une démocratie, de prendre de la distance, de prendre du recul, de souligner un certain nombre de dysfonctionnements, de proposer un certain nombre de solutions pour corriger la situation. Mais on était vraiment très loin du débat tel qu'il s'exprimait il y a un peu plus d'un an, il y a 18 mois, autour, effectivement, de ce phénomène de la grippe A. Et pour répondre à l'auditeur, les industriels non seulement n'ont pas pu exiger qu'on leur paye les commandes qu'on avait formulées, mais ils ont dû abandonner purement et simplement ces commandes, alors même qu'ils avaient fabriqué les vaccins. Et la fabrication d'un vaccin, ça demande entre 6 mois et 8 mois de travail dans des sites industriels avec des investissements.
Sur ce thème de la grippe, professeur Rousseau, oui.
À l'occasion de ce problème de la grippe, il y a eu effectivement des missions parlementaires et la mission sénatoriale présidée par le sénateur Autain a fait une inspection auprès des différentes agences de santé et dans son rapport, il est indiqué que c'est la Haute Autorité de Santé qui a l'attitude la plus positive en matière de gestion des conflits d'intérêts.
Un mot, Daniel Messager.
Oui, il faudrait qu'à un moment, avant la fin de l'émission, quand même, on parle de la formation médicale continue. Oui. Comment on peut faire en sorte, justement, qu'il n'y ait pas suspicion sur cette formation médicale continue qui, pour l'instant, est payé par vous, monsieur Lajoux, enfin par les industries du médicament.
Oui. Si vous me permettez de répondre très rapidement, transparence totale sur le financement de cette formation médicale continue. Mmh. Comment faire ? Le faire vraisemblablement par un contrat entre les associations de formation médicale continue et les industriels, voire l'État, voire la HAS, c'est peut-être un débat qu'il faudra ouvrir, de façon à faire en sorte qu'il n'y ait pas de suspicion, à la fois ni sur le contenu scientifique, ni sur le financement, ni sur l'évaluation de cette formation médicale continue.
Formation au sens large, le docteur Foucras pourra peut-être nous dire ce qu'il en pense. Je vous lis le courriel de David à Amiens. On ne peut souvent pas se passer de l'aide de l'industrie pharmaceutique pour les peu de congrès médicaux pourraient s'organiser sans l'aide logistique et financière. Or, ces congrès constituent un carrefour essentiel pour les échanges d'infos entre praticiens. L'industrie pharmaceutique aide aussi, alors on en parlait, à la formation permanente des médecins ou encore à la publication des travaux, des études. Elles sont aussi stratégiques dans la carrière d'un médecin, mais aussi le partage de la connaissance sur des sujets très particulier. Comment voyez-vous les choses, docteur Foucras ?
Les médecins qui se forment à l'abri des influences de l'industrie pharmaceutique, des influences commerciales, prescrivent moins, prescrivent mieux et prescrivent moins cher. Hein, donc on est aussi dans la diminution de ce facteur de risque. Il faut arriver à découpler la formation médicale continue des financements de l'industrie pharmaceutique. Ce n'est pas un fabricant de médicaments. J'attends d'un fabricant de médicaments qui me donne de bons médicaments pour bien soigner mes gens, mais je n'attends pas qu'il m'apprenne mon métier, clairement. Et donc c'est dans cette perspective-là qu'il faut travailler, non pas dans la transparence, mais dans l'indépendance.
Un mot, monsieur Rousseau, avant le dernier appel. Oui.
Il est clair que l'industrie intervient à tous les niveaux, évidemment la visite médicale, mais aussi la formation des médecins, comme cela a été dit, les congrès, les post-congrès sur Internet. Donc elle dépense beaucoup d'argent. Elle dépense beaucoup d'argent. Et moi, je propose que l'argent que l'industrie pharmaceutique dépense soit attribué à des organismes neutres, indépendants, alors selon des modalités évidemment à discuter avec les industriels qui veulent garder un petit peu de lisibilité. Mais moi je pense qu'on ne pourra pas se sortir de ce problème s'il n'y a pas à un moment quelconque une création d'un organisme indépendant ou l'utilisation des sociétés savantes pour faire en sorte que l'envoi des jeunes dans les congrès, l'organisation des satellites symposiums soit faite avec de l'argent soit mutualisé, soit neutre, n'appartenant pas en propre à une compagnie.
Bonsoir Grégory à Toulouse, médecin généraliste, je crois.
Bonsoir.
Bonsoir, on vous écoute.
Je rebondis sur l'intervention du précédent intervenant.
Oui, oui.
Il semble évident qu'on a besoin des spécialistes, des experts pour faire une recherche de qualité, enseigner, faire la formation médicale continue, mais cette recherche doit être indépendante. Et il me semble que pour faire cette recherche indépendante, il faut que l'argent soit lui-même indépendant. J'ai une question, donc, pourquoi ne pas créer un impôt sur les bénéfices des laboratoires pour organiser une recherche réellement indépendante qui pourra rémunérer les meilleurs spécialistes dont on a besoin et organiser une formation médicale de continue réellement indépendante.
Qu'en pensez-vous, monsieur Lajoux? On va demander aussi l'avis des autres intervenants.
La recherche est nécessairement coopérative et collaborative dans tous les pays du monde. Et si on veut avoir des médicaments anticancéreux qui soignent aujourd'hui un cancer sur deux, il faut accepter le principe d'une recherche coopérative. Et quant à l'impôt des industries du médicament, les industriels du médicament payent déjà des impôts extrêmement importants sur les bénéfices qu'ils réalisent.
Est-ce que ce serait un système qui conviendrait au désir que vous aviez formulé, docteur Foucras?
Le prix du médicament, dans le prix du médicament, il y a 20% de ce prix à peu près qui correspond au budget marketing de l'industrie pharmaceutique pour vendre plus, pour prescrire davantage et pour faire légitimement les profits.
C'était vrai il y a 10 ans, monsieur Foucras.
C'est pas moi qui ai les chiffres, c'est les chiffres de l'OCDE. Ce serait pas inimaginable d'imaginer que une part de ce budget marketing sert à financer une formation indépendante, de façon à pouvoir avoir des prescriptions plus appropriées.
Vous ne pouvez pas dire que, d'une part, que les industriels ne sont pas légitimes pour faire la formation, et de l'autre côté, de dire on va les taxer dans ce cadre-là. Nous, ce que nous proposons, c'est en concertation, en transparence, à travers un contrat lisible et compréhensible par tout le monde, de trouver les modalités d'une formation indépendante, parce qu'il est important que la formation soit indépendante.
Avec l'argent qui viendrait d'où précisément ?
Aujourd'hui, les industriels ne revendiquent pas l'exclusivité de la formation médicale continue. Il s'avère que les industriels investissent dans la formation médicale continue parce que personne d'autre le fait. Mais si d'autres acteurs le font, les industriels s'en réjouiront.
Un petit mot là-dessus, ça sera la conclusion d'ailleurs, professeur Arousseau, pour la Haute Autorité de Santé.
Non, mais je pense qu'il y a effectivement une réflexion en cours sur la formation. Et comme le disait la première des intervenantes, la formation elle débute dans les études de médecine.
Bien sûr.
Et il faut effectivement que les facultés de médecine fassent un effort particulier pour former, je veux dire, globalement à la qualité et à la sécurité des soins. Alors après, la formation continue, je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion globale. Et évidemment, on ne pourra pas la faire sans la participation de l'industrie pharmaceutique, mais je redis qu'il faut qu'elle soit absolument indépendante.
Dernier mot, Daniel Messager.
Au pouvoir public de s'engager aussi, parce qu'il y a un énorme vide quand même là à combler. Et puis on attend d'ailleurs sur ce sujet, entre autres, les conclusions de la deuxième partie du rapport de l'IGAS qui seront connues mi-juin.
Bientôt 20h sur France Inter, demain soir au téléphone sonne, tout autre chose, aïe aïe aïe, les conflits d'intérêts, non je plaisante parce que ce sont tous des historiens et des universitaires, hindouisme, christianisme, islam, judaïsme ou bouddhisme, avec l'atlas des religions, le monde, la vie, question donc demain sur les religions, leur ligne de fracture, leur poids spirituel et aussi, on le sait, politique. Merci à tous nos invités, bonsoir, à demain.
C'était Le Téléphone Sonne, une émission dirigée par Alain Bédoué, attaché de production Marie-Claude Malartic et à la réalisation Laurent Thomas.